Bonjour à vous qui m'écoutez. Ceci est le troisième épisode de mon podcast, Youhou. Et pour cet épisode un peu spécial, un peu impromptu, je me trouve aux côtés d'un ami que j'apprécie beaucoup et qui m'a fait le grand honneur de faire son premier épisode où j'étais son invité. Et donc, bonjour Vincent Dagneau.
Salut Olivier, merci pour ton invitation.
Avec grand plaisir, et c'est un défi que je fais en ce moment puisque nous tournons actuellement dans la nature. J'ai beaucoup été inspiré par ton action, par tes 18 épisodes podcast que tu faisais entièrement dans la nature ou dans le jardin de ton invité. Et donc, voilà, c'est quelque chose que tu m'as beaucoup transmis, cette inspiration de faire au pied levé, même si c'est imparfait. Alors, tu as fait 6 fois plus de podcasts que moi. Et donc, voilà. Et je suis un peu en zone d'inconfort, mais voilà, nous nous trouvons actuellement à la forêt de Soignes. Et en préambule, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui te plaît dans cet endroit ?
Ah voilà, je suis un Bruxellois qui bouge beaucoup dans la nature, comme tu l'as dit. Donc les podcasts que je fais sont dans la nature. Je les ai commencés il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, mais la forêt de Soignes où nous sommes, ça fait partie des endroits... J'ai 40 ans, où je me promène depuis que c'est marché, mine de rien. Donc c'est un endroit assez révélateur du fait que dans la vie, ouais, il faut avancer. Et donc voilà, donc se promener en forêt, c'est une avancée, par exemple. C'est une mise en mouvement. Donc ouais, donc quand tu disais que tu as fait 3 fois moins de podcasts, non, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Bah, voilà, peu importe le nom, voilà, c'est que tu... tu commences à oser. Donc, comme je le dis souvent aux gens, voilà. Donc, l'anagramme du mot audace, par exemple. J'ai quelques secondes pour que les gens qui nous écoutent puissent essayer de deviner. C'est le mot cadeau. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, quand on ose faire des choses, c'est et qu'on réfléchit pas trop avant de les faire aussi. C'est vraiment important parce qu'on se fait un cadeau, on se permet d'avancer. De progresser, c'est vraiment ça, d'apprendre des choses. Déjà pour soi, c'est une des premières choses. Et donc, ouais, la nature, c'est un des lieux, en tout cas pour ma part, je sais pas pour toi, qui me permet de me ressourcer, de réfléchir, de m'éloigner des écrans quand j'ai vraiment passé trop d'heures devant des écrans et que je me rends compte que les idées que j'ai soit sont pas top, soit à l'inverse, ne viennent plus du tout. Et donc c'est un lieu pour se ressourcer, quoi, la nature.
Je confirme tout à fait. Et comme j'adore te surprendre, je te dirais voilà, que nous entendrons durant ce podcast les chants des oiseaux, les promeneurs qui courent. Et voilà, et tu m'as beaucoup inspiré là-dessus. C'est le fait que de ne pas chercher à trop éditer, à trop enlever les blancs. Et pour cet épisode, je vais vraiment limiter mes éditions et le lancer tel quel. Et donc, pourrais-tu me parler un peu plus de toi, de ce que tu fais, de ce qui te passionne et également de ton nouveau projet, de ton nouveau site internet?
Le site internet, bah, c'est la chose où on finira, le site internet. Voilà, qui je suis, donc en gros, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui a un côté très épicurien, qui aime entreprendre beaucoup de choses, donc ce qu'on appelle plutôt multipreneur dans le monde de l'entrepreneuriat, slasher. Alors, j'ai la chance d'avoir beaucoup de potes entrepreneurs qui ont aussi cette dynamique-là, donc être une sorte de pile électrique, donc avoir un rythme parfois difficile à suivre. Et voilà, moi, ce qui me fait vibrer, c'est forcément la nature, forcément les rencontres. Donc c'est ce que j'essaye de mettre dans mon activité. Et donc mon activité, voilà, j'étais chargé de communication pour des ASBL, pour des ONG avant, quand j'étais salarié, jusque 2017. Et donc depuis lors, j'essaye de mettre en place un certain nombre d'actions, justement, et pour moi, pour d'autres personnes, donc notamment encore le monde associatif, des directeurs, des chargés de communication du monde associatif, de plus en plus, voilà, donc des entrepreneurs ou des artistes qui ont parfois, à côté de leur parcours artistique, une double casquette d'entrepreneur également. Donc voilà, moi, c'est plus les accompagner pour voilà, réfléchir et agir par rapport à leurs outils de communication. Donc c'est voir où ils en sont, donc c'est faire un audit, puis un plan d'action de d'abord toutes les ressources en communication qu'ils ont. Parce que voilà, tout le monde a une voix. Est-ce qu'ils osent parler avec leur voix? Donc voilà, mon podcast, qui est un des outils que j'utilise depuis mai de cette année, s'appelle Trouver votre voix, V-O-I-E-V-O-I-X. Parce que voilà, parce que à plein de moments, et donc ça c'est un peu l'analogie de ce podcast, on s'est posé sur un banc, on est au carrefour de quatre voies, et donc il y a moyen de prendre quatre chemins différents. Et donc voilà, donc moi mon accompagnement par rapport aux entrepreneurs, c'est de leur dire, voilà, exemple, ils ont déjà parlé en public et ils sont à l'aise avec ça. Donc on va peut-être pas travailler cet aspect-là. Ils ont un site web, mais ils estiment qu'il y a un moyen de l'améliorer. On va peut-être travailler ça, si vraiment c'est important pour eux, le site web. Ils sont sur plein de réseaux sociaux, mais ils ne les alimentent pas suffisamment. On va voir si tous ces réseaux sociaux sont pertinents pour leur activité et surtout s'ils vibrent avec l'utilisation de ces réseaux sociaux. Si en gros, tu ne publies rien pendant des mois ou des années, mais que tu as un outil, est-ce que cet outil est encore pertinent? Est-ce que ça vaut la peine de le relancer, d'utiliser différemment? Voilà. Moi, j'essaye de co-construire en fait avec les gens en disant, voilà, ouais, en gros, je suis un chargé de com, je suis un stratège pour votre communication. C'est en gros l'intitulé de mon activité, mais on va plutôt travailler ensemble, bosser ensemble pour voir voilà, si ça vous parle. Si aussi, en termes de dynamique, voilà, ils se forcent pas à faire certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui se disent, ah, mais les journées ne sont pas extensibles, j'ai du temps une fois par semaine entre 6h et 7h le matin. Et donc, ils vont par exemple se forcer à produire une publication pour un réseau social un lundi matin de 6 à 7. Et ça va être une catastrophe parce qu'ils se seront, entre guillemets, voilà, pas suffisamment écoutés. Ils se seront dit, bah, les gens qui me suivent s'attendent à ce que j'ai publié ça à telle heure. Et donc, ils vont plus mettre une pression pour respecter des contraintes que le faire avec plaisir. Moi, ma dynamique, c'est plus de dire aux gens, voilà, tu es un entrepreneur seul, mais qui a une vie de famille. Ah, donc, à plein de moments où ta priorité, ce sera ta famille, c'est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. À d'autres moments où la situation de la personne est très différente, donc la personne a peut-être beaucoup trop de temps et à l'inverse, elle procrastine en se disant, ah ouais, mais ça, je peux le faire à plein d'autres moments tellement... ma dynamique et mon emploi du temps est extensible, ou les tâches à faire sont interchangeables. Donc moi, c'est ça, c'est un peu avoir cette discussion par rapport aux personnes, quelles sont les ressources financières, matérielles et leur dynamique qu'elles ont, donc les compétences. Si une personne ne sait pas envoyer un mail, je ne vais pas l'encourager à essayer de maîtriser 50 outils technologiques. Je vais voir comment on peut peut-être commencer par diminuer toutes ses peurs, ou si elle est considérée comme une personne en manque de digitalisation ou qui est dans de la fracture numérique, comment on peut lui permettre d'être plus à l'aise avec la technologie. Donc voilà, donc mon activité, elle est, comme tu l'as dit, donc de plus en plus de podcasts en nature, mais ça reste un outil. De plus en plus d'entrepreneurs que j'accompagne par rapport à des crowdfunding, c'est-à-dire des financements participatifs parce qu'ils estiment à un moment donné qu'ils ont besoin de financer une partie de leur activité, donc soit un lieu, soit un produit, et que c'est par un crowdfunding qu'ils vont pouvoir fidéliser, pouvoir avoir une communauté et avoir un rôle d'ambassadeur pour mettre en avant ce qu'ils font par ce biais-là. Voilà, en effet, ce ne sont que des outils, ce que je propose, donc le podcast, l'accompagnement crowdfunding ou justement l'amélioration d'un profil LinkedIn. Donc, un réseau social que je trouve intéressant pour pouvoir justement réseauter ou pour pouvoir trouver des pistes un peu plus originales de mécénat ou de un peu casser les codes pour pouvoir permettre aux gens justement de rencontrer d'autres types de profils et donc de pouvoir créer des activités avec des gens qui viennent d'autres secteurs d'activité. Donc comment combiner tisser des liens. Donc forcément, voilà, donc pas juste LinkedIn, mais comment tu peux le combiner avec un vrai réseau, donc des gens avec lesquels, par exemple, tu te promènes assez régulièrement dans la nature.
Oui, et donc moi j'avais une question qui me trottait dans la tête, c'est nous avons maintenant la chance d'avoir plein de réseaux sociaux différents. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas décemment les entretenir tous en même temps. Parce que j'imagine mal avoir moi-même, entretenir, enfin avoir 36 réseaux sociaux, c'est une chose, mais c'est nécessaire de les entretenir assez régulièrement. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui entendent partout que c'est important d'être présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok? Qu'est-ce que tu voudrais répondre à ces personnes-là?
Que, comme tu le dis, il y a beaucoup d'outils, réseaux sociaux ou autres, que la société, et non plus l'aspect marketing ou l'aspect capitaliste de la société, qu'on nous dit qu'il faut avoir ou il faut être présent sur. Voilà, moi je pars plus du principe en discutant avec les gens de voir si c'est un outil qu'ils maîtrisent ou qu'ils ont envie d'apprendre. Et voilà, parce que par exemple, si tu prends le monde de la mode ou certains métiers liés au bien-être, oui, en théorie, Instagram est le meilleur outil. En pratique, si tu n'as pas une certaine régularité ou si tu n'arrives pas à faire des photos ou être bon en graphisme, c'est peut-être pas intéressant d'utiliser Instagram. Tout, de la même manière que j'explique aux gens que c'est important qu'ils puissent comprendre les codes de chaque outil, de 1 avant de les utiliser pour eux et de 2 avant de confier, de déléguer. Ah, parce qu'il y a moyen de faire appel à des community managers, des gestionnaires de réseaux sociaux qui vont automatiser plein de choses à ta place, mais si tu ne sais pas comment ça se fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc c'est un peu. Moi, je ne suis pas doué en comptabilité, mais je sais les bases de la comptabilité. Et moi, je préfère le déléguer à certaines personnes. Je suis plus super fan de gérer tous les réseaux sociaux de certaines personnes, mais je pourrais le faire. C'est parce que ça me fait plus vibrer. Et donc, voilà. Donc, Facebook, c'est quelque chose qui peut servir, qui reste un outil très intéressant, mais ça dépend aussi les personnes qu'on veut toucher, les personnes qu'on a déjà en termes de communauté. C'est ça.
Et donc voilà, ça je ne vais pas le couper au montage, c'est les gens qui circulent, donc bienvenue dans la forêt de Fagne.
Une famille à vélo qui... Et donc là, ouais, c'est des enfants qui viennent de passer.
Et donc recentrons-nous sur les Facebook.
Et donc ouais, donc c'est. Et donc comme disait cet enfant qui n'est pas tombé, voilà, pour retomber par rapport à Facebook, il y a moyen de très mal tomber quand on utilise mal un outil ou quand on se dit ah mais tout le monde fait ça comme ça, je vais faire comme tout le monde. Non, c'est vraiment, moi je dis aux gens que étrangement, il faut essayer de personnaliser, d'être de plus en plus authentique. C'est ce en quoi je crois le plus. Parce que voilà, si on dit aux gens, tiens, il faut publier tous les jours à telle heure, ouais, ok, mais si tout le monde fait ça comme ça, au final, tu ne sors pas du lot ou tu n'attires pas les personnes, ou tu perds un certain nombre de personnes qui vont dire, bah ouais, mais je reçois X notifications par jour que X page Facebook que je suis publiée à la même heure. Et voilà, donc le but, c'est pas que les gens saturent, le but, c'est que. Enfin, selon moi, les gens puissent montrer qui ils sont, donc à certains moments en respectant les règles. C'est sûr que tu ne vas pas publier à 3h du matin une publication juste pour sortir du lot. Ça n'a pas spécialement un intérêt, mais j'explique plus aux gens. Voilà. Tu prenais l'exemple de TikTok tout à l'heure. TikTok. Voilà, c'est un outil très particulier qui, oui, devient tendance, comme le podcast, comme d'autres outils. Mais ça reste une tendance. Et donc, soit tu te décides à aller vers l'idée d'une tendance donc, qui a un laps de temps où c'est à la mode, en gros. soit tu te dis, ah, ok, cette tendance, est-ce que ça va rester? Donc est-ce que c'est intéressant pour moi de le suivre? Moi, j'ai plus aux gens que l'idée, c'est de construire quelque chose dans le temps. Et donc, voilà, je ne suis pas fan des one-shot, donc le fait de faire une action ponctuelle. C'est plus l'idée de se dire, ah, mais si j'utilise cet outil, c'est parce que voilà, j'ai réfléchi dans le temps à ce que ça peut m'apporter.
Et qu'en fait, tu construis un fil, tu construis une histoire et tu tisses un lien avec ceux qui te regardent. Ce n'est pas quelque chose qui va s'évaporer après un certain temps. C'est quelque chose de concret. Ça fait partie de ton scénario global.
Ah, il faut se dire, si on prend un site web, que il faut régulièrement changer des contenus. Les réseaux sociaux qu'il faut tous les X temps quand même publier mes contenus, il peut y avoir une réflexion de se dire, tiens, mais je vais essayer de jouer sur l'absence. Et donc si je publie moins souvent et que j'ai une communauté fidèle, c'est justement plus le phénomène de rareté qui va fonctionner. Il y a d'autres personnes qui sont dans une énorme transparence, qui font beaucoup de storytelling, une couleur dynamique, c'est parce qu'ils ont une stratégie dans ce sens derrière, avec des contenus qui sont préétablis parce qu'ils s'alignent par rapport à des journées mondiales, des journées internationales ou des éléments clés, des dates clés. Et que voilà, moi j'explique plus aux gens que le but c'est justement de rester soi-même et donc de ne pas faire croire aux gens que tu es un spécialiste de quelque chose, si, soit c'est pas toi qui le fais, soit si tu commences à le faire, mais qu'au final, tu perds le plaisir et la joie de le faire. J'ai souvent cette discussion avec plein de gens qui me disent « Ah, mais moi, j'adore mettre des photos tous les jours, des citations tous les jours. » Et soit c'est en laissant passer du temps qu'ils gardent la motivation, le goût à faire ça, soit ils perdent tout à fait leur motivation après quelques temps parce qu'ils se sentent, comme je le disais tout à l'heure, mis une pression, ils se sont forcés à faire les choses que ma communauté veut voir tous les jours. Mais est-ce que toi, tu as l'énergie tous les jours? Ou si tu ne l'as pas tous les jours, est-ce que tu as envie que ce soit la technologie donc sous forme d'automatisation qu'il fasse pour toi?
C'est pour ça en fait que quand tu vois sur des sites internet des personnes où tu vois qu'ils sont présents sur plus que 4 à 6 réseaux sociaux, voire 8 ou 10, tu te dis, s'il le fait seul, ça veut dire qu'il y a très très peu d'activité. Soit il a une équipe derrière qui nourrit chacun des réseaux sociaux. Quoi.
Soit tu as beaucoup de technologie derrière qui est fait à ta place.
Mais du coup, c'est pas vraiment sain non plus de le faire, d'utiliser des outils comme Buffer ou comme Lately pour automatiser. Puisqu'en fait, on voit quand quelqu'un automatise, ça se voit. Et donc moi, en tant que visiteur, j'ai beaucoup moins de crédibilité quand je vois des posts via Buffer et ou autre, parce que je me dis, voilà, c'est quelque chose qu'il a posté la même chose sur 36 réseaux sociaux différents. Et...
Donc là, tu peux utiliser des outils qui te permettent, que ce soit diffusé à une certaine heure, mais où tu as en effet élaboré tes contenus pour qu'ils soient adaptés à chaque outil. Moi, il y a très peu d'outils d'automatisation que j'utilise parce que j'ai fait ce choix à l'heure actuelle de me dire « Ah non, je personnalise les messages. » Et c'est aussi ce truc de me dire « Ah mais, ouais, ok, les gens s'attendent peut-être à avoir telle chose en ligne à telle heure avec une certaine répétition, genre tous les samedis à 9h. » Ah bah non. Certains samedis, je publie rien ou ça arrive à midi au lieu de 9h le matin. Parce que voilà, parce qu'au départ, j'avais l'impression que je le faisais pour moi, mais je me mettais une pression aussi. Et c'est pas que j'aime les grasses maths, loin de là. J'arrive quand même pas à en faire, même si je mets pas de réveil pour ma part. Mais c'est ça, quoi. Y a plein de choses où, en fait, à un moment donné, on pense plus à soi. On se dit, mais je le fais pour les gens. Parce que tu as l'impression que tu as une communauté ou des gens qui... ont absolument besoin d'avoir cette information. Et au final, ça, en ayant eu des discussions avec certaines personnes, je me suis rendu compte qu'ils me disaient « Ah, mais j'ai écouté ton podcast X jours après que tu l'as mis en ligne. » Et Et au final, c'était bien aussi, parce qu'au final, les gens... Ah, c'est ça, c'est un peu souvent les petites voix. Dire, je suis très exigeant avec moi-même, je veux que ce soit parfait. Non, c'est déjà bien que ce soit fait. C'est mieux que de ne pas l'avoir fait, hein, quelque part. Donc c'est ça, avec beaucoup de gens qui procrastinent, et au final, l'important, c'est pas le timing que ça prend, c'est le fait de le réaliser.
Oui, et je sens cette petite pique et je ne vais pas le prendre de manière trop personnelle.
Non, ce n'est pas par rapport à
donc, toi. Non, mais voilà.
C'est en règle générale, beaucoup de gens qui ont soit énormément de temps, mais qui ne sont pas satisfaites de leur production, donc elles n'osent pas encore la diffuser. Soit à l'inverse, des gens qui disent « Ah, mais j'ai plein de possibilités, donc est-ce que je propose d'abord le podcast ou je propose d'abord... » le site web. Donc ouais, pour répondre à ta question tout à l'heure, moi voilà, moi je procrastine depuis quelques temps sur mon site web parce que c'est un outil que j'estime avoir besoin, mais au final où je devrais être plus bienveillant par rapport à moi-même en me disant tiens, c'est déjà bien d'avoir cet outil, même si tous les contenus sont pas nickel, je le diffuserai.
Eh bien, je vais annoncer justement pour nous deux, en fait pour mon site et pour ton site, une date butoir. Donc, qui sera figé dans l'audio, donc c'est très important pour nous deux. Donc moi, je suggère, Vincent, es-tu d'accord qu'on fixe cette date butoir pour le 20 septembre ?
Eh oui, et donc ce sera en ligne, ce ne sera pas parfait, mais c'est une très bonne idée justement de mettre ça dans le marbre, enfin, ça n'est pas du
dans
marbre.
Dans le marbre audio qui va être diffusé, je pense, le 7 septembre. Je vais le diffuser le 7 septembre. Et donc voilà, pour revenir à l'essence du podcast par rapport au français, je dévoile à nos auditeurs et certaines personnes qui te connaissent déjà, ils le savent, que tu es un féru des jeux de mots, de tout ce qui est humour. Et nous avons eu l'occasion déjà de converser pendant que nous marchions dans la forêt et d'échanger quelques jeux de mots excellents. Donc tu es un francophone natif et c'est ta langue maternelle, n'est-ce pas?
Ah, le français est ma langue maternelle et donc oui, c'est...
Après, et par après, tu as appris le néerlandais et l'anglais.
Ah, le néerlandais, l'anglais. J'ai des bases d'italien, j'ai des bases espagnoles.
Magnifico!
J'ai eu la chance d'apprendre la langue des signes francophone quand j'étais adolescent. Ah, mais ça, c'est pas spécialement une langue orale, mais c'est... Ah, je suis quelqu'un qui est très curieux de plein de choses, donc apprendre des mots ou apprendre des langues, ah, je suis souvent parti, ben, ça remonte un petit temps maintenant, en city trip dans des villes européennes, donc j'ai par exemple été à Prague ou à Porto, donc j'ai appris, j'ai un peu perdu en tout cas les rudiments de tchèque que j'avais appris avant de partir à Prague, mais j'ai encore gardé quelques mots... en portugais, et je vais peut-être pouvoir les réutiliser, ces mots en portugais, d'ici quelques temps. Et ça, c'est plus l'aspect curiosité. Et voilà, mais pour revenir donc au français, ouais, c'est ma langue maternelle. Ma maman a été prof de néerlandais, donc ce côté pédagogique, c'est pas pour rien que j'étais formateur pendant tout un temps, formateur en français, langue étrangère. Je suis passé par l'enseignement aussi en tant que prof de français et d'histoire, ça n'a pas duré longtemps. Ah, ça reste de très chouettes étapes de vie qui m'ont appris beaucoup de choses sur moi, sur les relations humaines et sur le monde de la formation, de l'éducation, donc les rapports entre les apprenants et les formateurs, par exemple.
Oui, et donc quelles ont été tes expériences au niveau de l'école? As-tu eu un professeur de français inspirant? Ou certains profs inspirants que tu souhaiterais nous dévoiler.
Après, il y a des profs qui sont inspirants dans le sens positif du terme. Donc un des profs qui m'a le plus marqué que j'ai eu comme prof de français et de latin, il est décédé il y a quelques mois, à l'âge de 60 ans. Mais ça, c'était quelqu'un qui avait une joie de vivre. Et donc, vraiment ça, c'est plus avoir des exemples de personnes qui nous inspirent. Parce qu'on voit qu'elles aiment ce qu'elles font et elles le transmettent avec le sourire, même les jours où c'est plus compliqué. Il y a une énergie qui se dégage de ces personnes parce que ce n'est pas un job alimentaire, ce n'est pas quelque chose qu'elles font par défaut. c'est vraiment des choix qu'elles font. Et donc, ce prof, il avait beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Je suis parti en voyage qui était un peu épique quand j'avais 15 ans avec lui. Donc, c'est un voyage en Tunisie. Et je raconte souvent que donc le fait d'arriver en Tunisie pour une sorte de tour de la Tunisie, parce que chaque jour, on allait dans une ville différente, donc chaque soir, c'était dans un hôtel différent. Et donc, tu arrives à Djerba, premier soir, et tu fais partie des enfants, des élèves, dont les bagages ont été perdus. Et tu dis, mais ça va être épique. Et donc, c'est le tout dernier soir que les vêtements sont arrivés. On était donc deux garçons, une fille. C'était plus compliqué de trouver des sous-vêtements dans les souks de Djerba, des sous-vêtements féminins, que des sous-vêtements masculins. C'est plus ça l'anecdote. Et si je raconte cette anecdote, c'est parce que j'ai fait des stages justement dans la classe de ce prof de Zouloum, 15 ans après. Quand j'avais plus ou moins 30 ans. Et donc, donc avant de me laisser ses classes, il avait raconté cette anecdote. Et voilà, que quand j'avais l'âge des élèves, j'avais vécu tel et tel truc. Et donc, c'était à la fois marrant pour lui, c'était quand même compliqué pour moi. Bon, il avait récupéré leur attention, comment maintenant, après cette anecdote. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook donc des anciens de cette école, comme anecdote posthume, donc quand il est décédé. Parce que voilà, ça fait vraiment partie des profs qui m'ont beaucoup marqué. Il y a d'autres profs qui m'ont marqué, mais dans le sens inverse, comme des formateurs ou des pédagogues qu'on rencontre parfois, et on se dit, ouh, ça c'est le contre-exemple de ce que j'aimerais proposer aux gens. Parce que, avec des profs qui n'ont pas d'autorité, où ça prend plus de temps pour mettre en place le cadre, donc tu vois absolument rien comme matière. Et ça, selon moi-même, ça plaît à beaucoup d'élèves de se dire, on vient de passer une heure où on a chahuté. Avec le recul, quelques années après, on me dit, elle m'a beaucoup appris cette prof. Donc, une prof de latin qui, même chose, j'avais 15-16 ans, elle était proche de la pension. Et on ne parlait pas encore de burn-out à l'époque, mais elle avait vraiment tous les symptômes avec le recul d'un burn-out. En plus, elle était avec une sorte de bras métallique parce que c'était cassé tout le bras, donc c'était à l'époque toute une armature métallique, et donc c'était, on l'appelait, je sais plus si c'était Robocop ou Terminator de ce fait-là.
C'est pas sympa pour les profs.
Et donc pour ouvrir une porte quand c'était dans un nouveau local, rien que pour faire tourner la clé dans la porte, il fallait 10-15 minutes au raccourci, ça dure un maximum 50 minutes. Oui. Et il y avait donc c'est ça, il y a plein d'anecdotes, quoi. C'est ça, quoi. C'est des anecdotes qui se racontent pas.
Oui, mais dans les deux cas, que ce soit des profs qui t'ont vraiment inspiré ou des profs qui t'ont vraiment descendu, si j'ose dire, c'est que ça sert de leçon, c'est un apprentissage d'exemples et de contre-exemples pour bâtir soi-même ce que nous souhaitons dans notre vie.
C'est un peu l'exemple, qu'on lise un livre, qu'on regarde une vidéo sur YouTube, qu'on assiste à une formation en présentiel ou sur Zoom, il y a des apprentissages, des savoirs, des compétences qu'on va acquérir assez rapidement, à l'instant T, d'autres choses qui vont germer, qu'on va pouvoir semer plus tard, parce qu'il faut plus de temps pour l'appréhender, ou on n'a pas encore la maturité sur le moment même. Donc c'est ça, donc si je reprends ces profs en humanité, c'était dire. Avec le recul, ça m'a appris certaines choses. Et je réutilise parfois certaines anecdotes maintenant en disant que forcément, ta première réaction quand tu fais un voyage et que tes bagages se perdent, c'est de te dire oulala, la catastrophe. J'ai pas ça et ça, comment je vais faire? Et puis, ça t'apprend la solidarité parce que tu as tes petits camarades qui te passent des vêtements. Ça te fait découvrir des endroits où tu n'as pas prévu d'aller parce que tu te fais un souk de nuit.
Oui.
Alors que tu aurais peut-être soit pas été dans ce souk, soit tu l'aurais visité dans un autre contexte en journée, par exemple. Donc, il y a plein de choses dans la vie où si on part juste de la réaction instantanée de dire « Ouh, ça me fait peur, c'est une situation que je ne connais pas. » Ou « Oh, la galère !» Et qu'on focalise son attention sur ça, c'est sûr que ça va être une galère. Mais qu'à l'inverse, si avec le recul, on se dit « Tiens, mais c'est quand même cocasse comme, comme situation. » Moi, c'est plus ça. Moi, c'est « Ah, c'est, j'ai été faire une promenade il y a quelques jours. » La promenade se passait super bien. Puis à un moment donné, il y a un pigeon qui me chie sur l'épaule. Je me serais focalisé juste sur ça, j'aurais retenu que c'est cette promenade, waouh, catastrophe. Oui. Non, c'était le seul moment un petit peu particulier de cette promenade, à part ça. C'était un très très chouette moment, et c'est ça, c'est pourquoi se focaliser sur... Parce que l'être humain a tendance à plus voir les choses qui ne vont pas comme il veut, plutôt que toutes les belles choses. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, voir toutes les ressources qu'on a, plutôt que toutes les choses qui nous manquent.
Oui, et donc aussi la chance d'avoir quelques professeurs qui nous ont inspirés, qui ont choisi leur mission, et à notre tour, nous pouvons aussi transmettre, donc transmission de notre énergie motrice, de notre humanité, qui sont beaucoup plus importantes que le savoir lui-même.
C'est souvent ça, c'est en termes d'intergénérationnel aussi. C'est vraiment à l'heure actuelle, ouais, il y a des fossés. Par exemple, si on se rattache à la technologie, donc le monde numérique, à tous les gens de 40 ans et plus, beaucoup sont dépassés par la technologie. Là où les enfants qui naissent à l'heure actuelle, j'ai limite l'impression qu'ils sortent du ventre de leur mère déjà avec toute la technologie. Et tu vois des enfants de moins de 10 ans qui t'expliquent les choses. Moi, j'ai ma filleule qui est sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux. Et donc elle s'y connaît mieux que ses parents, que ses grands-parents. Pour certaines choses, elle m'apprend jusqu'à moi des choses. Et ça fait partie de la dynamique, donc c'est le fait de se dire, ouais, la société évolue, et il y a plein de choses dans la société, que je le veuille ou non, qui me dépasseront toujours. Donc c'est d'accepter, de lâcher prise. Quoi.
Et d'où l'importance justement d'apprendre des uns des autres, et de collaborer plutôt que d'être dans un mode de compétition. Et donc voilà, maintenant je passe à la question de l'invité mystère, qui va beaucoup te faire rire. Pourquoi es-tu devenu entrepreneur et suite à quoi ?
Alors, voilà, donc j'ai été de mes 20 à 36-37 salariés. Enfin, dans le sens que, voilà, que j'ai réellement commencé à travailler à mes 25, mais que pour me payer mes études au TECO, j'ai fait beaucoup de jobs alimentaires. Et... c'était en règle générale lié au monde associatif, donc chargé de projet, chargé de communication. Donc très enrichissant humainement, beaucoup moins au départ en termes de salaire. Et puis progressivement, enfin surtout, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, dans d'autres interviews chez d'autres personnes, à un moment donné, tu te dis, voilà, mais le monde associatif, le monde des ONG est censé être un monde humain. Tu travailles pour de l'humain, donc tu t'attends à ce que les rapports avec tes collègues soient humains. Et avec le temps, je me rendais compte qu'il y avait, comme dans d'autres secteurs, une sorte de lutte de pouvoir où c'était plus les égos, avec des gens qui venaient d'autres domaines et qui voulaient des résultats chiffrés. Et tu te dis, mais oui, mais j'ai fait x2 ou x3 les rentrées liées à tel événement. Pour la cause sociale, pourquoi on pointe que c'était pas suffisant. Ou à l'inverse, tu as la chance d'avoir un job, mais qui est un boulot, mais qui est dépendant d'aide à l'emploi. Et donc la structure, pour ne pas perdre cette aide à l'emploi, même si tu as fait un boulot exceptionnel, te dit, ah tiens, mais le contrat va être suspendu à tel moment, parce que sur nos fonds propres, on va pas pouvoir te garder. Voilà, donc c'est des choses que j'ai vécues, et sur le moment même, c'est très très frustrant. Alors, tu pars avec de très belles lettres de recommandation, avec plein de gens, on t'offre un panier garni, avec plein de produits comme remerciement. Mais en attendant, tu te retrouves par la case chômage de nouveau pendant des semaines ou des mois après ça, à perdre confiance en toi, en termes d'estime de toi, en termes d'épanouissement, c'est un peu montagne russe. Et à un moment donné, ouais, donc ma dernière expérience en tant que salarié, donc c'était pour une ONG où je travaillais au service com, mais même chose, c'était dépendant d'aide à l'emploi. Et donc voilà comment je suis devenu indépendant. C'est, je suis passé déjà un petit peu par la SMART à certains moments quand j'étais salarié, donc indépendant complémentaire par la SMART. Et voilà, donc j'avais un certain nombre de pistes quand je retombais par la case chômage, pas forcément en tout cas à les frapper à la porte d'Actiris, mais j'avais déjà des ASBL ou des petites structures que je trouvais plus humaines ou que j'avais trouvées. Donc je suis passé par Bruxelles Laïque, une conseillère qui m'a parlé d'entrepreneurs qui se lançaient, notamment pour des personnes qui cherchaient à se réorienter professionnellement, donc en termes de quête de sens. Et c'est comme ça que j'en suis venu donc à rencontrer des entrepreneurs, à parler d'entrepreneuriat, à aider des personnes comme moi qui voulaient se réorienter à réfléchir à leur communication, à aller vers l'accompagnement de crowdfunding pour des commerces de proximité. Voilà, donc les choses se sont faites naturellement parce que, en sortant de ce job de salarié, je me suis dit, j'ai pas envie de rester chez moi, à me tourner les pouces, à me mettre devant un écran, à caresser mon chat et à faire mes tâches quotidiennes, mon ménage. J'avais envie de garder cette énergie, donc d'être au quotidien avec des personnes, d'avoir ces échanges. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir rebondir. Puis voilà, l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Encore plus quand tu es tout seul et quand tu ne sais pas spécialement ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai directement eu la chance de faire certaines rencontres, puis après, d'aller vers certaines structures, soit pour découvrir leur mode de fonctionnement, soit parce que voilà, j'en avais entendu parler. Pour moi, c'est hors de question que je ne fasse pas ma propre opinion, que je ne teste pas ce qu'ils proposaient. Voilà, donc passé par la SMART. Je suis passé par des séances d'information, des séances de groupe chez Job Yourself, qui est une coopérative d'activité qui permet de tester son activité. Là, je suis, après quelques années, retourné récemment chez Job Yourself pour entrer en phase test, que j'ai jamais vraiment osé jusqu'à présent tout lâcher, dans le sens de directement prendre un numéro de TVA et me dire, tiens, là, je suis à 100% indépendant. J'ai voulu passer par des étapes. Il y a des choses dans la vie où je suis plus fonceur. Là, je me suis dit, tiens, je vais prendre plus mon temps, mais en étant voilà, accompagné par certaines personnes. Mais avant tout ça, voilà, j'ai eu ce besoin de m'entourer et de découvrir l'entrepreneuriat. Donc, j'ai un énorme réseau d'entrepreneurs. Je suis membre d'un cercle entrepreneurial. J'ai testé plusieurs cercles entrepreneuriaux pour me faire mon idée avant d'arriver dans le cercle entrepreneurial où je suis. Donc c'est ça, c'est donc les gens qui m'ont pas vu depuis 10, 15, 20 ans sont surpris et par mon choix d'aller vers l'entrepreneuriat et par le fait que j'ose faire un certain nombre d'autres choses. Ils se souviennent toujours du petit garçon timide d'une certaine époque. Mais moi, c'est ça, c'est comme je le disais au tout début de ce podcast, voilà, c'est important pour moi d'oser faire certaines choses. Donc, c'est pas que je n'ai aucune peur. Voilà, mais à certains moments, voilà, je trouve plus important d'oser, donc de sortir de ma zone de confort, que de rester dans une routine. Mmh. J'ai plus de difficultés à un peu mettre le pilote automatique, donc à rester dans des routines qu'à aller vers des choses ouais, qui sont des changements, qui sont des avancées qui peuvent en effet être stressantes ou qui peuvent justement, pour beaucoup de gens, apparaître comme qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, moi j'ai plus tendance à me dire je vais essayer, je vais tenter de faire mon maximum. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un apprentissage en fait. Ah, donc ouais, tu ne tentes pas, tu tombes pas. Tu tentes et ça se passe super bien. Là, tu dis, j'aurais peut-être pu le faire plus tôt. Ou à l'inverse, tu tentes et tu rames un petit peu. Soit tu t'arrêtes que tu procrastines dans tout, soit à l'inverse, tu te dis bon, ok, c'est pas parfait, ok, ça va moins vite que ce que j'aurais peut-être pu espérer, mais au final ça avance, donc c'est ça, c'est donc depuis 2017, et je prends mon temps par rapport à l'entrepreneuriat, c'est ça, j'ai pas à l'heure actuelle tant de contrats que ça, mais les contrats que j'ai, de plus en plus je les choisis, et les personnes avec lesquelles je collabore, ou avec lesquelles je sous-traite, ne fût-ce avec lesquels j'ai des débats d'idées, me permettent d'avancer. Et donc je ne reste pas sur un échec ou sur une impression de stagner. Je me dis, tiens, allez. Mais si on reprend l'exemple des podcasts que j'ai lancés, c'est quelque chose que j'ai fait de manière assez irréfléchie. Mais ce n'est pas pour ça que toutes les activités que j'entreprends, que j'entreprendrai à l'avenir seront de manière aussi rapide. Mais c'est ça que c'est en effet. C'est se dire, en tout cas, après les gens qui nous écoutent, s'ils sont entrepreneurs, se reconnaissent peut-être à certaines époques où on n'ose pas, où on réfléchit beaucoup plus qu'on agit. Bah, c'est humain, c'est une manière de se protéger. Ou à l'inverse, certaines personnes qui vont nous écouter, qui sont salariés, qui peut-être depuis quelques mois ou plus envisagent de changer de carrière, en partie ou complètement, bah c'est libre à elles de se sentir prêtes ou pas. Je crois souvent des entrepreneurs qui ne sont qu'en partie entrepreneurs parce qu'ils ont par sécurité, par choix, par d'autres raisons qui libre à être, qui voilà, ont ce besoin de garder un pied dans le salariat, que pas forcément, il y a des factures, il y a d'autres choses, où il y a tout l'environnement familial. Quand on est entouré d'entrepreneurs qui nous encouragent, on réfléchit moins au lendemain en disant il y a telle et telle difficulté. Alors, c'était un peu ça avant d'oser aller vers l'entrepreneur, c'est de me dire, tiens, mais si ça foire, c'est quoi le pire scénario? Et au final, je me suis dit, voilà, ben, le pire scénario, c'est à 40 ans de devoir vendre telle et telle chose pour aller retourner vivre chez mes parents. Il y a pire, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance de se dire, tiens, mais j'ai telle et telle garantie financière. Moi, je me suis dit, voilà, ben, je suis entouré de plein d'entrepreneurs, j'ai une famille formidable. J'ai cette chance de, pas forcément au quotidien, mais ne fût-ce que plusieurs jours par semaine, pouvoir demander des retours à des potes entrepreneurs, d'avoir un certain nombre de mentors, et que ce soit par Zoom, par téléphone ou en prenant la nature avec eux, un certain moment d'aller, ouais, mais j'avance pas depuis quelques jours sur ça, qu'est-ce que tu me suggères de faire? Ou à l'inverse, de moi me dire, tiens, mais, hein, j'avance super bien. Et de pouvoir justement, à l'inverse, aider d'autres potes entrepreneurs qui m'ont soutenu à d'autres moments parce qu'ils sont dans une période un peu plus de down, donc un peu plus basse pour eux. Donc c'est ça, c'est qu'on soit salarié ou qu'on soit son propre patron indépendant, il y a de toute façon des moments dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et c'est humain où on va moins bien. Et soit on décide de rester tout seul dans sa bulle parce qu'on n'a pas envie à ce moment-là de montrer sa vulnérabilité, ou parce que ça fait partie de notre dynamique d'essayer de s'auto-guérir à ce moment-là, soit à l'inverse, c'est devenu plus ma dynamique à moi, c'est de me dire non, j'ai trop le nez sur le guidon, là ça fait quelques jours que j'ai pas suffisamment avancé, il faut que je me bouge ou que quelqu'un me donne quelques pistes, mais au final, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est peut-être pas le parfait moment pour tout entreprendre, mais c'est commencer un petit peu à semer, ou à mettre des pierres sur notre trajet, en disant, voilà, c'est une étape, est-ce que c'est vraiment le résultat final que je veux obtenir? C'est pas certain, c'est qu'on va bouger, switcher vers un autre endroit. J'utilise beaucoup de mots en anglais à chaque fois, j'essaie directement de sortir la traduction pour respecter la langue française.
Je t'honore pour ça. Et donc, merci pour tes réflexions. Petite question rapidement. Vois-tu une différence entre être indépendant et être entrepreneur ?
Mais pour moi, être indépendant, on peut l'être dans plein de pans de sa vie. C'est-à-dire libre de faire ses choix. C'est une personne indépendante. Pour moi, c'est une personne qui ne va pas toujours demander la vie à d'autres. Être entrepreneur, entreprenant, c'est à certains moments se dire, tiens, là, j'ai besoin d'agir. En effet, ça serait tout un débat par rapport à des mots. Il y a des indépendants qui ne sont pas entrepreneurs ni entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs non entreprenants qui ne sont pas forcément indépendants. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent avec plein d'autres gens. Et donc même s'ils n'ont pas un statut de salarié, ils ont tellement de missions pour des structures qui certes payent bien. Là, ce n'est pas une critique, que par moment, je me demande s'ils sont encore indépendants dans le sens qu'ils choisissent librement leur mission ou qu'ils font, des choix vraiment avec tout un libre arbitre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants qui choisissent des missions parce qu'elles payent bien. Et s'ils sont alignés par rapport à ça, parce que leurs clients payent en temps et en heure, parce que leurs clients ne sont pas trop exigeants, et qu'ils arrivent à garder les moments que j'appelle les moments importants, les moments précieux pour eux, c'est-à-dire que leur boulot, leur mission freelance ou autre, n'empiète pas sur leur vie privée, et donc qu'ils arrivent à garder cette joie, ce plaisir de passer des moments en famille ou de prendre des moments pour eux. Il y a beaucoup d'heures sur la semaine où je me promène, où je vais au cinéma, où je fais du sport, où je vois des amis. Chose que je pourrais pas faire en étant salarié, ou pas de la même manière en fait. Et à l'inverse, j'ai parfois eu des gens qui me disent « Ah mais ça fait 20-30 ans que je suis mon propre patron, mais malgré tout, j'arrive pas à faire telle et telle chose. » Parce qu'ils se mettent la pression, parce qu'ils ont quand même des objectifs qui se mettent, qu'ils veulent absolument atteindre. Donc c'est ça, moi je suis plus dans une dynamique, et là c'est un petit clin d'œil à un de mes coachs entrepreneurs, un de mes mentors, de tout faire pour travailler moins, pour gagner plus. Et pas forcément plus d'argent, mais plus de temps, plus de bons moments, plus de santé aussi. Parce que y a, après, c'est tout un autre débat. Il y a des indépendants qui, certes, gagnent bien leur vie, mais qui font 70-80 heures par semaine. Qui sont très occupés les soirées et les week-ends, qui prennent très peu de temps pour eux. Et moi, je me dis, mais ils sont capables. S'ils font un burn-out, qu'à ce moment-là, que c'est l'assurance maladie, s'ils en ont une qui est leur seul moyen de payer les factures, ça va être radical comme eux. Donc, c'est vers l'inverse. Je connais de plus en plus de personnes qui sont salariées, mais qui ont des emplois du temps à l'aise, parce que soit ils ont pu, entre guillemets, donner leur emploi du temps, soit ils ont trouvé une structure qui leur permettait de pouvoir gérer leur temps d'une manière qui leur convenait. Donc il n'y a pas de... Selon moi, bref, le monde du travail évolue. J'ai entendu que voilà, qu'il y aurait de moins en moins de salariat pour de plus en plus, pas forcément d'entrepreneuriat, mais de job flexible dans certains domaines d'activité. Que justement la tendance avec la digitalisation fait qu'il y aurait de plus en plus de boulot qui pourrait être fait pour les gens à partir de chez eux. Et c'est ça, et le problème restera le même. C'est fait partie des choses, c'est personnel. Moi je suis pas fan des écrans. Parce que les écrans, je m'y habitue de trop. Comme j'ai dit tout à l'heure, la routine est moins. Et donc voilà, donc si au final je me rends compte que j'ai passé X heures devant un écran et que je suis pas fatigué, je vais me retrouver à me dire voilà, mais t'as pas eu les déplacements à faire pour aller travailler à tel endroit, mais au final t'as une autre fatigue qui s'immisce dans ta tête, dans ton corps, d'une autre manière. Donc c'est ça, moi j'ai envie de pouvoir me sentir bien dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que mon choix d'aller vers l'entrepreneuriat. J'ai fait une balance, les pour, les contre. J'ai qu'il y a plusieurs colonnes sur une feuille, pour, contre, indéterminé. Et c'est ça. Il y a forcément une sécurité jusqu'à un certain point d'emploi financier quand on est salarié, donc on a une certaine ancienneté. Mais ouais, je connais beaucoup de gens qui sont salariés et qui sont contents d'être salariés et qui changent assez régulièrement de boulot. Pas forcément comme les indépendants qui ont plein de missions variées, mais je trouve aussi, en tout cas ma dynamique à moi, c'est que les missions que j'ai, je me dis tiens, je ne suis pas dans une routine, donc en effet, je passe d'un coaching d'une heure avec un artiste, ce coaching s'est fait dans la nature, à une demi-heure en Zoom avec telle autre personne, puis après, à une heure où j'envoie une capsule vidéo que j'ai faite ou que je n'ai pas faite et que je trouve inspirante envers une autre personne, parce que je trouve que ça peut être important pour son apprentissage à elle, qu'elle, enfin c'est une piste comme une autre, qu'elle regarde cette vidéo. Donc ça me permet de faire plein de choses. Comme je disais, là, c'est ça. Quand j'étais salarié, beaucoup de gens me définissaient comme une sorte de couteau suisse. Ce qui permet d'être polyvalent, donc de faire plein de choses, ce qui est pas mal en soi, mais qui est aussi souvent connoté de manière plus négative. Donc voilà, donc, maintenant là, je suis donc un multipreneur. Et ça, j'ai plein de projets en région bruxelloise. J'en ai de plus en plus dans d'autres coins en Belgique où je peux aller ponctuellement accompagner des entrepreneurs ou des artistes. Et ça fait partie de quelque chose que j'avais pas autant avant. Si dans le monde des ONG, voilà, j'allais sur des événements où je pouvais créer des choses ailleurs qu'à Bruxelles. Voilà, j'ai fait beaucoup de sensibilisation pour les ONG. Donc j'allais dans des écoles, dans des hôpitaux, ce qui est un peu lié au monde de la formation. Donc c'était très enrichissant, mais c'était assez ponctuellement. Là où quand t'es ton propre patron, voilà, tu peux sur une même journée, encore plus avec la technologie, faire plein de choses différentes, donc je m'ennuie beaucoup moins en fait maintenant.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle, et donc je t'invite à ouvrir le parapluie, parce que le temps en fait presse, et le temps, la météo, et le temps aussi du podcast. Et donc maintenant c'est le moment de la question vice-versa, où toi tu peux me poser des questions.
Vice-versa, ça m'a pensé à un film d'animation Disney, je sais pas si c'est vraiment ça le titre, mais si, voilà, donc par rapport à ce film d'animation, c'est un film d'animation sur les émotions.
Oui.
Et donc voilà, donc c'est pas forcément une question par rapport à toi, mais c'est par rapport aux personnes qui nous écoutent, en gros, pas piste de réflexion.
Mais qui ne pourront pas répondre, donc...
C'est, voilà, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes submergé par une émotion? Est-ce que vous avez des méthodes spécifiques, enfin, de relaxation ou autre, pour justement ne pas rester bloqué dans cette émotion, et donc pour que votre corps n'emmagasine pas cette émotion et que ça ne se transforme pas en problème de santé, par exemple.
Eh bien, c'est étonnant parce que c'est une question que tu demandes aux auditeurs, donc je vais la poster sur LinkedIn, comme ça elles pourront commenter. Et donc par rapport à si tu me permets de répondre à cette question, comment je fais pour gérer mes émotions? Eh bien, moi, pour ma part, je ne savais pas très bien au début, et j'ai pris des mécanismes parmi les outils que j'ai eu à ma disposition. Et donc, j'ai fait beaucoup de... C'était surtout au niveau du Covid, quand le Covid est arrivé en mars 2020. J'étais d'abord dans une phase de connexion où j'étais connecté en ligne à d'autres êtres humains, mais je suis tout de suite arrivé à la respiration consciente, et pour moi c'est capital pour exprimer nos émotions, de passer par il y a plein d'autres outils, mais j'ai la respiration consciente pour moi, le breathwork en anglais, ou respiration consciente. C'est très important pour justement exprimer les émotions de notre corps. Et par la suite, et comme tu le sais, je suis arrivé à un autre stade où je me réfugie dans la nature, en fait. Et j'adore utiliser ce terme parce que pour moi, c'est un refuge. La nature est un refuge par rapport aux pressions du monde civilisé qui nous entoure. Et de pouvoir se permettre, s'autoriser à prendre quelques heures dans la nature, c'est pour moi très capital. Et donc, comme tu sais, je suis un très très grand marcheur et c'est la marche. Donc, j'ai utilisé souvent ces expressions qui sont que la marche est ma planche de salut et la respiration consciente est ma bouffée d'oxygène. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis aidé à exprimer mes émotions et surtout à les accepter telles qu'elles sont, à ne plus vouloir les réprimer, parce que bon, dans notre société il y a des images qui sont que par exemple l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit être fort et ne doit pas exprimer ses émotions. Et donc, de plus en plus, je pense que c'est super important de trouver des outils pour nous aider à... Parce que l'émotion, c'est l'énergie en mouvement, emotion. Et donc, c'est d'aider notre corps à accepter, à évacuer ses émotions. Parce que sinon, ça devient malaise, ça devient maladie, malaise. As-tu une autre question ?
C'est vraiment ça, quand tu parles d'émotion, que peu importe là où on se trouve, dans une bulle d'air, une bulle d'oxygène, on va de toute façon promener notre émotion, hein, si on ne trouve pas une méthode. C'est ça, je prends souvent l'exemple de gens qui décident de partir en vacances, mais ils ont pas régler un problème de vie privée ou du boulot, et donc ils sont...
Oui.
Ah, donc, c'est ça, on a parlé hors podcast justement de Serge Marquis, et vraiment c'est ça, donc c'est pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est donc québécois. Donc si vous décidez de chercher sur YouTube son nom, ne vous étonnez pas,
soyez curieux.
Il a un très fort accent québécois.
Soyez curieux.
et donc voilà, donc c'est un médecin par rapport à tout ce qui est stress, burn-out. Et il dit souvent, voilà, que beaucoup d'êtres humains, dans la majorité, sont dans du mental. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on rumine son mental. Oui. Et donc, il parle souvent du hamster dans sa roue qu'on a dans notre cerveau.
Ou de la vache dans son champ, en parlant de ruminer.
Oui, aussi. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment, donc, je peux me demander une question. On parlait d'émotion, de comment faire pour sortir cette émotion et pas faire qu'elle nous enferme. C'est ça. Donc, quelles sont, pour aller un peu plus loin, quelles sont les choses que les gens arrivent à faire pour s'éloigner de leur mental ou pour justement ne pas, c'est plus loin que le mental, ne pas rester figé dans leur passé, donc avec les blessures, les blocages. Moi, je suis beaucoup, en tout cas depuis quelques mois, avec tout ce qui est pensée positive. Donc, chaque fois que j'ai, pour ma part, quelque chose que je trouve négatif qui me traverse l'esprit, je me dis comment je peux transformer ça en positif. Donc la question aux gens, c'est voilà, est-ce que vous avez conscience quand c'est une pensée négative qui arrive, de l'impact que cette pensée, quand vous l'oralisez, a sur votre interlocuteur et même a sur vos actes. Où est-ce que vous arrivez justement, après c'est un énorme travail, à dire « Oula !» C'est ça, c'est comme on disait, voilà, « Il me manque, il faut, tu dois. » Moi j'essaie à chaque fois de transformer. J'ai déjà telle et telle chose dans la vie, telle chose sera un plus. Ou c'est qui il
Eh bien, c'est très intéressant.
C'est qui on.
C'est très intéressant. Je serais curieux de recevoir en commentaire le réponse à ta question que tu leur poses. Quant à moi, je pense que dans un premier temps, c'est le fait de tourner d'une autre façon, c'est une piste, mais pour moi, ce n'est pas la première piste à envisager. C'est d'abord d'accepter ses pensées, ce qui ne veut pas dire de les valider. C'est-à-dire simplement de prendre conscience de ses pensées, de dire « Ah, je pense ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» et de se dire « Voilà, merci de remercier cette pensée. » Et en même temps de dire « Voilà, mais ceci dit, je ne te mets pas dans le siège conducteur de mes décisions. Je ne te laisse pas prendre la place inutile dans mon esprit. Mais merci quand même. » Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est super important de remercier parce que le fait de tourner en positif sans reconnaître et sans remercier, c'est réprimer, c'est mettre cette petite pensée dans un coin et dire voilà, toi je. Et c'est une métaphore, donc il y a la métaphore du siège conducteur, mais il y a aussi la métaphore du ballon qui gonfle dans l'eau. Et donc le ballon qu'on essaye de tout le temps plonger dans l'eau et qui ressort au final, alors qu'on pourrait très bien dire voilà, je te remercie d'être apparu dans l'eau, mais je ne veux pas que tu prennes de la place inutilement, et donc je décide de te remercier, mais de te dégonfler. Et donc histoire que j'accepte ces pensées négatives, mais je ne veux pas qu'elles prennent de la place ni qu'elles, parce qu'en fait en voulant les tourner de manière positive, on les met dans un coin et je sais que tôt ou tard elles vont ressurgir de manière un peu plus violente. C'est impossible de tout le temps, et ça prend de l'énergie, l'énergie mentale et l'énergie physique aussi, de tout le temps vouloir réprimer une émotion. Et donc la métaphore du ballon, voilà. Donc pour moi c'est simplement dans un premier temps d'accepter ce qui est, de ne pas vouloir non plus rester avec cette émotion négative. Une autre métaphore qui est la métaphore du nuage qui passe, et que ça ne sert à rien de vouloir, quel que soit le type de nuage, un beau nuage ou un nuage gris, ce nuage passe dans notre ciel et à un moment donné disparaît. Et donc c'est d'essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont, et dans un même temps de dire voilà, je te remercie mais je ne veux pas que tu prennes de la place dans mon siège conducteur. Voilà,
être bienveillant avec les jugements, de se dire ah, ok, ça c'est quelque chose qui m'appartient,
voilà,
qui est lié à telle et telle partie de mon passé, telle et telle partie de mon vécu. C'est pour ça que je me juge de manière aussi critique, c'est pour ça que je fais cette critique sur telle personne, parce que son comportement fait écho à telle et telle chose que j'ai vécu, donc c'est un peu
voilà,
une sorte d'effet miroir.
Désolé de te couper, et aussi ce qui est important, c'est que est-ce que ça m'appartient vraiment ? Est-ce que ce sont des pensées qui m'appartiennent vraiment ? Parce que bien souvent, c'est des pensées externes, c'est des pensées que les autres nous inoculent et qu'on fait nôtres. Et donc c'est aussi de se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je pense moi, ou est-ce que j'ai pris cette pensée de quelqu'un d'autre ?
Si les gens nous ont justement transféré une peur, nous dire non, ça ne m'appartient pas à moi, ou je sais d'où ça vient, mais je ne dois pas valider forcément cette idée.
Nous allons donc maintenant clôturer tout doucement notre balado-diffusion, puisque je vois que tu adores utiliser des mots anglais, j'adore utiliser des mots en français, même si c'est toujours plus tentant de dire podcast.
Il faudrait dire cloudcast en fait, parce que...
Non, c'est toujours anglais, hein. Cloudcast est toujours...
Oui, non mais le mot podcast en fait, parce que c'est... Pour la petite histoire, c'est lié à une marque bien particulière qui a appelé ça un pod, qu'on a gardé. Or, c'est stocké sur un serveur global, donc ça devrait être un cloudcast.
Enfin voilà, pour nos auditeurs, nos auditeurs auront compris que tu as la langue assez facile. Et donc nous allons, coûte que coûte, terminer ce podcast pour quels sont tes projets dans les prochaines semaines, les prochains mois, et où nos auditeurs peuvent te joindre.
Alors, mes projets, voilà, mais donc toujours les balado-diffusions, toujours des podcasts qui, à l'heure actuelle, sont presque tous les samedis, mais qui vont, à mon avis, même si ça restera le samedi, s'étaler dans le temps, donc ce sera plus toutes les 2 ou 3 semaines. Donc c'est toujours donc, des entrepreneurs inspirants avec lesquels je me promène dans la nature. Donc ça ne devrait pas évoluer. Ce qui va un petit peu changer, c'est que voilà, donc je vais essayer de davantage accompagner les entrepreneurs vers justement des financements participatifs, crowdfundings, avec l'accent juste pour le plaisir. Je vais continuer d'avancer avec des entrepreneurs. C'est ce qui me fait le plus vibrer, justement, de les accompagner dans une réflexion, une mise en place d'outils qui sont alignés avec qui ils sont. Voilà, parce que je vais pas, ça ne me ressemble pas, je vais dire, mais il faut absolument faire ça et ça. Et bon, avoir ce côté pédagogue, comme je l'ai dit, toute cette co-construction, c'est ce qui m'anime énormément aussi. Donc voilà, donc c'est en tout cas mes projets pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de rencontrer des gens avec lesquels co-construire des outils qu'ils n'ont pas encore ou leur permettre d'améliorer des outils qu'ils ont déjà. Et donc voilà, que ce soit donc des podcasts, des crowdfundings, d'autres outils. Voilà, j'accompagne beaucoup de gens à améliorer leur profil LinkedIn. Après, ça reste que des outils qui ne sont pas forcément nécessaires pour tous les entrepreneurs que j'accompagne. C'est ça, c'est vraiment personnaliser l'accompagnement et, comme on le disait, apprendre et s'enrichir mutuellement au travers des échanges pour, en tout cas, leur permettre de trouver les clients qui leur ressemblent aussi. Que de la même manière que je n'ai pas envie de travailler avec des clients qui vont être à l'opposé des valeurs qui me parlent. Les clients que j'essaie d'avoir sont des personnes que je veux accompagner au mieux pour qu'elles puissent, comme j'ai dit tout à l'heure, retrouver du temps pour elles, pouvoir être épanouies dans ce qu'elles font, quitte à ce qu'elles délèguent certaines choses qui sont plus complexes pour elles, mais au départ, des choses qu'elles doivent connaître, les grandes règles. Donc c'est ça, les acronymes, les jargons de toute la communication, je trouve ça important de justement pouvoir l'enseigner, l'exprimer aux gens comme ça, ils sont pas trop perdus. Parce que c'est ça moi qui m'a le plus dérangé, quand même un petit argument négatif de temps en temps, quand j'ai souvent croisé des personnes du monde de la communication, c'est qu'ils accompagnaient dans le temps, quelque chose de très bas, parce que c'était inscrit dans le contrat. Et moi, ma vision, c'est de travailler dans le temps, donc de proposer des choses qui ne sont pas dans le contrat, en limitant quand même par moment, parce que c'est très enrichissant de travailler avec les gens, mais pas faire que les gens nous accaparent de trop malgré tout.
Et donc, notamment un de tes projets, ton site internet, qui sera publié dans son imperfection, comme le mien, le 20 septembre.
Ouais, merci de le rappeler.
Ben écoute, j'ai appris grâce à toi que la meilleure façon de pouvoir accomplir des choses, c'est justement de se donner des dates butoirs et c'est aussi de se supporter l'un l'autre.
C'est ça, c'est vraiment le fait de... Ben, l'entrepreneuriat, en tout cas, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est en effet collaborer et être soutenu, bien entouré par des personnes que l'on choisit. Donc, peu importe si on les appelle des mentors, des personnes influentes, mais avoir cette chance de pouvoir compter sur d'autres personnes, en effet.
Ok, super. Donc, dernière phrase. Quel est ton message d'un frère humain aux autres humains qui nous écoutent ?
Soyez bienveillants envers vous-même. C'est vraiment ça, c'est... Plus on se met la pression et plus on est déjà exigeant avec soi-même, moins on arrive à être bienveillant, je trouve. Et donc forcément, on met une pression sur soi-même, c'est une réalité, mais rythme qu'on s'impose, qu'on en ait conscience ou pas, on l'impose aux autres aussi. Donc si on veut être vu comme des humains bienveillants, il faut se respecter. Et naturellement, on s'entoure des personnes qui nous ressemblent. Donc moi, j'ai cette chance de plus en plus de m'entourer de très très belles personnes. Et donc je suis très très emprunt, même pas, heureux et plein de gratitude par toutes les rencontres que j'ai faites depuis 2-3 ans. Très très grand enrichissement humain. Donc si comme moi vous trouvez votre vie magnifique, continuez de réseauter, de vous entourer de belles personnes, parce que ce sera vraiment ça le plus bel enrichissement.
Et quel plaisir, de terminer notre podcast sous les bruits de chevaux que nous entendons. Et donc voilà, nous allons terminer ce podcast comme nous l'avons commencé, avec des bruits. Vincent, une bonne journée à toi.